C'est Patrick Sabatier. Salut Jordan, bon
salut
café.
Fan. Merci.
Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi en fait,
Je vais vous parler de marketing de soi.
On parle un peu de personal branding, mais pas que, c'est ça?
Ouais, pas que. En fait, tu es d'accord avec moi, et je pense que les gens qui nous suivent aussi seront d'accord avec nous, qu'on est les mieux placés pour parler de nous.
Bah oui.
De se mettre en avant, de...
Bah d'ailleurs, quand tu demandes à quelqu'un comment ça va, etc., etc., tout de suite, il ne va pas te répondre je compatis avec toi. Il va te dire plutôt, ah oui, mais je me souviens, il m'est arrivé un truc il y a quelques temps. Ah, mais il m'est arrivé un truc à ma sœur, au moins un truc. Il ne parle pas de toi, il parle de lui. Et toujours, ouais. Les gens parlent d'eux.
Exactement. Et il y en a qui ne parlent pas forcément d'eux. Et c'est super important, donc, de savoir parler de soi, forcément, quoi, pour savoir se mettre en valeur. Mais même le fait, en fait, de se mettre en valeur, tu as l'impression que... Il y a plein de gens qui ont des difficultés avec ça parce qu'ils associent le fait de se mettre en valeur avec l'orgueil ou le fait de se faire claquer les bretelles, quoi, par exemple. Mais le fait de te valoriser, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de narcissique et que quand tu es en entretien de recrutement, bah, tu ne vas pas mettre ta modestie en avant en disant oui, bon...
Bon, il n'y a pas que moi, c'est l'équipe qui a travaillé.
Voilà, c'est ça.
Et puis c'était facile.
Exactement. Ouais. Donc moi, j'avais marqué quelques points. Ouais, je disais qu'on avait des difficultés à se mettre en valeur. Ça, la difficulté à se mettre en valeur, même quand je travaille avec des personnes. Là, tu vois, lundi, j'ai fait une formation auprès de personnes qui sont en transition professionnelle dans une boîte, un organisme de formation. Et quand j'ai parlé du fait de valoriser ses fiertés, un mec il s'est mis en mode bras croisés, puis il était comme ça. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a, Régis, en plus il s'appelle Régis. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a, Régis? Et en fait, il m'a expliqué que pour lui, il avait des difficultés avec le mot fierté. Parce que le mot fierté, pour lui, c'était lié à l'orgueil, à quelqu'un qui...
Oh non, t'es fier de ton travail.
Mais voilà, t'es satisfait, quoi, t'es fier de tes enfants. Ça veut pas dire que t'es orgueilleux ou que t'es une personne narcissique. Mais voilà, il y a plein de personnes qui ont une difficulté à se mettre en valeur. Et le fait de... Alors, j'utilise le terme marketing de soi, c'est pour être déjà cohérent avec ta chaîne et puis avec ta thématique. Mais se marketer aussi, c'est une manière de créer son positionnement et aussi parler de personal branding.
Donc, oser en fait se mettre en valeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait?
Ah ben c'est hyper, hyper simple. Hein. C'est d'abord, tu pars de soi, enfin de toi, parce que dans la vie, tout part de soi justement. Hein. Ben, c'est mieux se connaître. Alors, je disais dans mieux se connaître, ça partait du fait de t'as ton image et t'as l'image aussi que tu as de toi.
Ouais.
Donc, moi j'ai une image de toi. T'as une image de moi, j'ai ma propre image et moi j'ai l'image aussi des gens qui m'entourent. Mais c'est quoi la réalité entre les deux?
Ouais, il ne faut pas qu'il y ait trop de dissonance, trop de... Bah, parfois on se sous-estime. En fait. Il y a souvent cette impact.
On se sous-estime, on se surestime, on se dévalorise. Il y a énormément de choses. C'est quoi la réalité derrière ça, quoi? Quand tu dis à une personne que moi, c'est la première chose quand j'ai une personne en reconversion professionnelle ou en création d'entreprise, c'est la première chose que je fais avec elle pour qu'elle valide ses réussites, ses compétences et puis toute sa zone d'excellence.
Ouais. Bah, c'est vrai que moi, j'ai toujours aux personnes que je connais, mais ils disent parfois j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, mais je dis mais. Pense aux choses que tu as réussi à titre personnel ou professionnel et que finalement tu as réussi. Et base-toi sur ton passé pour construire ton futur.
Ouais.
Rappelle-toi, par exemple, tu as élevé deux mômes, rappelle-toi il y a 2 ans, tu es parti en vacances, tu as eu des galères, tu as eu l'occasion de faire ci, faire ça. Est-ce que tu n'étais pas fier de faire ça? Est-ce que tu n'as pas réussi à faire ça? Ah oui, j'ai réussi à faire ça. Finalement, je suis pas si nul que ça. Oui, tu vois, tu arrives à t'en sortir.
Ouais, mais après, il faut contextualiser les choses. Tu vois qu'il y a pas mal de personnes dans notre société qui vont te faire relever ce qui va pas. Plutôt que ce qui va bien. Pas plus tard en formation, il y a une apprenante qui m'a dit « Ouais, j'ai fait une étude de cas. Quand le type, l'intervenant, et pourtant c'est un formateur, quand l'intervenant il est venu à faire une correction de mon étude de cas, pendant 45 minutes, le type, il est passé au crible tout ce qui n'allait pas. Quoi. Il a dû parler pendant 5 minutes de ce qui était bien. C'est anti-pédagogique, toi. Mais même si les intervenants, les formateurs, ils font ça, alors t'imagines dans les entreprises, les managers. » C'est pour ça que je suis plus salarié, moi. Hein. Je me suis barré de la défense. Je voulais plus jamais vivre ça, quoi. Parce que je savais que mon potentiel n'était pas forcément exploité correctement, mais parce que aussi j'étais en position d'attente. J'étais passif et j'attendais que l'entreprise me révèle ou d'autres.
Ça, c'est très rare. Il faut avoir un bon manager qui sache en fait augmenter le potentiel des gens.
Ouais.
Alors donc la première étape, c'est savoir qui on est.
Mieux se connaître.
Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit liste en disant voilà qu'est-ce que je veux faire.
Non, ça c'est les trucs classiques qu'on voit. C'est-à-dire faire la liste de tes qualités, tes défauts. Mais comment est-ce que tu peux savoir si t'es pas objectif sur toi, ouais, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. Mm-hmm. Tu seras toujours dans l'illusion de toi, de ton image, ouais,
ton image déformée.
Voilà, c'est ça. Attends, moi je reviens dans mes notes, hein, parce que pour pas oublier justement.
Vous savez que parfois en fait j'ai quelques amis qui ont fait ça, ils ont demandé, ouais, à un coach de les aider, qui après donc c'est un questionnaire qui était rempli par des amis et qui permettait d'avoir une vision externe.
Ouais, c'est super important en fait. Moi dans mes accompagnements, je leur dis d'entrée de jeu que le maître mot de mon accompagnement, c'est l'objectivité. Si tu es objectif vis-à-vis de tes compétences, de ton image, de ce que tu véhicules, etc., et aussi ton choix professionnel, à savoir un futur métier que tu auras identifié, c'est important d'être objectif vis-à-vis de ça pour ne pas tomber dans le fantasme ou l'idéalisation de ce métier.
Oui, parce que souvent, il y a plein de gens, moi je les vois, j'ai fait pendant des années les salons de création d'entreprise, ouais, et tu voyais les gens passer d'une année sur l'autre, ils disaient « ouais, j'ai un projet, je vais me lancer ». En fait, c'était l'or. Alors que leur échappatoire pour leur boulot pour lequel ils s'emmerdaient tous les jours, ils disaient, ouais, mais j'ai monté ma boîte, j'y pense, j'ai l'idée, tout ça. Et en fait, c'était un fantasme qui le permettait en fait
d'éviter une situation, de fuir une situation, voilà, plutôt qu'aller vers le plaisir
et
ou surtout, quelque chose.
Pas jamais sauter le pas parce qu'ils, ouais, disaient, mais si je saute le pas, finalement, ça va être dur peut-être.
Mais ouais, mais comment est-ce que tu veux prendre la responsabilité de tes actions, de tes choix ou de ta vie si tu ne sais pas sur quoi te reposer en termes de qualité et tout ça. Donc c'est pour ça que moi, je mets de côté la liste des qualités, défauts et tout. Je les fais travailler sur leur zone d'excellence. Et dans ta zone d'excellence, en fait, tu as tes connaissances que tu maîtrises, tu as les connaissances sur lesquelles tu as envie de te positionner. Pareil pour les compétences et pareil pour ta zone d'expertise. L'important, en fait, c'est que à terme, que les gens te reconnaissent comme un expert, que tu sois reconnu comme un expert sur une thématique, sur quelque chose. Et que ça coïncide aussi avec le fait d'apprendre de nouvelles choses, donc de te positionner sur telle compétence, telle connaissance et telle expertise.
Ouais, et puis c'est vrai que tu peux aussi te positionner sans être pour l'instant un expert. Par exemple, moi, le growth hacking, le bouquin que j'ai sorti, pour moi, c'était un truc que je faisais naturellement, mais en fait, j'ai profité de cette mode-là pour écrire un bouquin, pour vraiment me former un max là-dessus. Et finalement, grâce au bouquin, grâce au blog, grâce à tout ça, je suis entre guillemets devenu un expert, alors qu'au début, je n'étais pas forcément un expert.
Ouais.
Donc on peut devenir un expert.
Mais exactement. D'ailleurs, un des principes du growth hacking, c'est pas fake it until you make it.
On va dire qu'on va tester le marché et ensuite, si ça marche, on convertit.
Ouais, voilà. C'est à partir du moment où tu te positionnes sur ce que tu as envie d'apprendre, de toute façon, enfin, même si tu te sens pas forcément légitime, tu peux toujours proposer sur ta capacité à apprendre de nouvelles choses, à progresser, à évoluer. Et après, faut bien débuter quelque part, de toute façon.
C'est vrai que tu peux. On disait tout à l'heure, un blog, c'est pas un business, mais tu peux utiliser un support comme un blog pour, ouais, dire voilà, je me lance en tant que telle activité et je vous fais découvrir comment faire pour, par exemple, je sais pas, devenir maçon, plombier, machin, et je vous explique comment faire, je vous partage mes galères, je vous dis un petit peu mon activité, et finalement, ouais, après. Voilà, je suis devenu un expert, je vous ai appris comment en faire et je suis passé par tous les choses.
Et ça, c'est le positionnement. Ouais. C'est de travailler ton positionnement pour prendre en compte aussi d'être vraiment acteur de ta trajectoire professionnelle et pas juste à te dire, bon, ça, ça a l'air pas mal ou tiens, j'ai fait un choix par défi, par facilité ou par défaut. Voilà, ça, c'est.
Donc, alors ensuite, qu'est-ce que tu peux
dire? La troisième partie, c'est tout ce qui est sur les outils de com. C'est-à-dire ton CV. Alors moi, j'ai mis de côté aussi le CV classique. Il faut arrêter avec ça parce que expérience, formation et tout ça, les recruteurs maintenant ils sont habitués à ces nouveaux CV qui sont des CV par compétences. Et puis tu as des trucs aussi qui sont carrément plus design, beaucoup plus.
Alors c'est vrai que moi j'ai utilisé en fait des services de Fiverr.com à l'époque, ouais, il y a quelques années de ça, pour refaire mon CV avec un truc graphique. Et donc j'ai refilé mon CV entre guillemets normal,
ouais,
et ils m'ont refait un truc qui était super joli, qui était super sexy, et ça c'est du vrai marketing.
Ouais, tu vois, ça fait partie aussi le fait de te marketer, parce que tu marketes aussi tes outils de com. Donc ton pitch, ton CV, ta carte de visite. Moi j'ai pas de carte de visite là, je crois. Non, je l'ai donné la dernière. Mais ma carte de visite, tu vois ma tête de vendeur de voiture dessus, tu vois. Il y a marqué aux ébriers, il y a marqué tous les trucs des réseaux sociaux. Et puis derrière, quand tu la retournes, tu vois mes compétences et mes zones d'excellence.
Ouais, ils savent ce que tu fais et comme ça, c'est ton positionnement est clair.
Ah ben c'est clair, il faut que la personne, en moins de 3 secondes, elle sache à qui elle a affaire et.
Si c'est pour elle ou si c'est quelqu'un qu'elle connaît. Quoi.
Ouais, parce que naturellement, le cerveau, il va te ranger dans une case. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que c'est important de faire en sorte que les gens te reconnaissent directement. Quoi.
Alors une petite astuce aussi en passant, C'est vrai que moi, en fait, j'utilise beaucoup des outils comme LinkedIn. Et c'est vrai qu'un outil comme LinkedIn Helper sert beaucoup, puisqu'en fait, je me suis mis à créer une communauté sur tout ce qui est relations clients, expérience client, etc., etc. Et j'ai ajouté en masse plein de gens sur ces mots-clés-là. Et j'ai jamais eu autant d'offres d'emploi et de propositions de job depuis que j'ai fait ça.
Ouais.
Faire croître son réseau via des outils automatiques comme LinkedIn Helper, qui est à 10 euros par mois, ou le faire manuellement en ajoutant des chasseurs de tête sur LinkedIn, tout de suite, ça donne un potentiel, parce que ça montre
qu'il y a une
dynamique. On ne reste plus en attente,
mais
on est proactif.
Ouais, bah c'est ça. Bah, dans cette proactivité, en fait, le but, c'est d'être impactant, quoi. Et être impactant, je crois que c'est ça que j'avais mis. Hein. Être impactant, c'est la quatrième partie. C'est-à-dire que pour moi, être impactant, tu vois, c'est vraiment donner envie à l'autre de te contacter, de travailler avec toi. C'est donner envie, quoi. Pour moi, je mets vraiment tout sur la zone de plaisir. C'est pareil quand tu es face à un recruteur. Ben, le recruteur aussi, il doit te donner envie de travailler dans sa boîte. C'est pas unilatéral, mais ça doit aller dans les deux sens.
Même un client, un prospect,
c'est clair.
Quand tu es consultant, il faut que tu donnes envie de dire, mais ce mec-là, c'est une star, il a du success story, il me donne envie, il me motive, il me donne de l'énergie, quoi.
Ouais, exactement. Donc c'est déjà prendre en considération tes besoins, mais aussi les besoins de l'autre, et pas juste à se regarder le nombril en disant, moi. Donc c'est pour ça que le marketing de soi, c'est soit en prenant en compte ce qui est déjà. Est-ce que vous avez aussi envie de devenir ? C'est pour ça que le positionnement là-dessus, cette étape, c'est la plus importante, le positionnement. Quoi.
Ouais, mais c'est vrai que justement, il n'y a pas trop longtemps, j'ai fait une mini vidéo là-dessus.
Ouais.
En disant que,
sur le positionnement ?
Oui, sur le positionnement. Par exemple, quand tu vas à un entretien d'embauche ou quand tu vas rencontrer ton boss, tu vas négocier un truc, tu dois réfléchir en avant en disant ok, tu vas voir ton boss, qu'est-ce qu'il attend de toi ? Qu'est-ce que tu veux de lui déjà ? Quel est ton objectif ? Quel est ton but ? Ensuite, qu'est-ce qui va faire qu'il va prendre la décision ? Et ensuite, quelle action tu peux mettre ? Par exemple, imaginons que tu vas voir ton boss pour faire signer un budget parce que tu as un super projet. Tu sais que ton boss, il est un peu cartésien, donc il va dire « Ok, je vais préparer un truc de ROI. » Il a peur du risque. À ce moment-là, je vais lui mettre un truc où on va lui prouver qu'il y a un garde-fou, il a un contrôle, il pourra faire ceci, faire cela.
Ouais.
Puis après, l'attitude, c'est quoi ? Je vais préparer un PowerPoint professionnel, je vais préparer un Excel, un machin, un bidule.
Ouais.
Et puis après, comment je vais faire un appel à réaction ? Tout simplement, j'ai peut-être après dire on fait un essai 30 jours. Un essai pas trop cher, j'y passe du temps après le boulot, etc.
Oui, parce que tu prends en compte ses besoins aussi.
Voilà.
Et c'est le fait de se prendre en compte soit la personne en face, ça te permet d'être à l'aise relationnellement. Et aujourd'hui, je pense que une des compétences les plus importantes, c'est les compétences relationnelles, de communiquer, parce qu'on est dans
l'empathie.
Ouais, l'empathie, c'est ta capacité à te mettre à la place de l'autre personne, mais à pas la prioriser, parce que la plupart du temps, les gens, ils se disent je suis empathie, donc je mets la personne en face de moi en priorité vis-à-vis de moi, quoi. Non, c'est juste ta capacité à prendre en compte ses ressentis et puis la prendre en compte dans tes choix, quoi. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais en gros, c'est super important d'être à l'aise relationnellement parlant, quoi. Parce que tu vois, aujourd'hui, on est dans une société, il faut le dire, on est quand même dans une société aux valeurs féminines. Parce que aujourd'hui, ce qui compte, c'est le partage, c'est la communication, c'est l'image. Les valeurs qui étaient très masculines à l'époque, qui étaient le contrôle, le pouvoir, ça s'estompe de plus en plus quand même.
Alors, je dirais qu'il y a quand même une dualité, parce qu'il y a une notion maintenant de beaucoup de ROI, de résultats, de performance.
Ouais, ça reste ça reste toujours là.
On joue un peu les deux.
Mais il y a quand même, tu vois, cette notion de communication qui prend énormément le dessus.
Je suis d'accord avec toi. Par exemple, sur mon site, depuis 3 ans maintenant, j'ai mis vraiment moi en avant. C'est-à-dire qu'il y a ma photo sur blog, il y a maintenant, les articles, j'essaye de faire.
Alors que tu aurais fait ça il y a 10 ans, on t'aurait pris pour un mec égocentrique, tu vois.
Exactement. Et mettre l'émotion, ça permet de créer des liens, de la relation.
Ouais. Et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux aussi qui fait que maintenant, quand tu mets ta bannière tout en haut avec ta tête, moi, comme je disais, avec ma tête de vendeur de voiture sur ma carte de visite, c'est plus considéré comme du l'égocentrisme ou du narcissisme.
Ouais, d'ailleurs, même tu fais mieux parce que tu fais des images, en fait, des dessins, d'ailleurs.
Ouais, ça c'est pour les illustrations d'articles.
Ouais. Parce que ça permet aussi un positionnement, un style.
Ça rentre dans mes outils de communication, parce que ça fait partie de moi aussi. Et puis, j'ai des facilités à dessiner. C'est le résultat aussi d'années d'ennui à l'école. mais ça fait partie de moi, quoi.
Ouais, c'est ta personnalité, ta différenciation par rapport aux autres.
Ouais, et ça me permet aussi, donc la différenciation, ça me permet de me vendre. Ça, c'est la cinquième étape. Du marketing de soi, c'est-à-dire que ta finalité, c'est de te vendre, d'avoir des facilités à te vendre. Et puis quand tu arrives en rendez-vous clientèle, bah, la personne, elle t'a déjà choisi peut-être à 30 ou 40%, et puis tu vas compléter les pourcents restants.
De se conforter.
La conforter dans ses idées, lui confirmer que effectivement tu es la bonne personne, que ce soit en entretien de recrutement ou avec un client, ou tout, enfin tout ça. Ouais. Donc c'est important de se marketer. Et moi, quand je forme des consultants en portage salarial, bah, y en a plein qui tombent des nues quand on leur dit « Ah bah ouais, les mecs, c'est bien de se marketer, il faut faire ça, quoi. Mais il ne faut pas parler de soi quand on est en rendez-vous.
Bah, » exactement.
Tu vas te centrer sur…
C'est vrai que dans la proposition commerciale, moi, à chaque fois, je tombais des nues. C'est qu'en fait, dans la plupart des boîtes où je suis, on dit « Bah voilà, la presse, c'est bon, en présence d'entreprise des produits. » Je dis « Mais non. » Ce qu'il faut faire, c'est « T'as une slide, ok, je vous parle de vous, mais ensuite, enfin, je parle de moi, mais ensuite, je vous parle de vous. Voici ce que j'ai compris de vos besoins. » Et ouais. Ça, c'est une slide que je mets tout le temps, et tout de suite, les mecs, ils se disent « Bon, voilà ce que j'ai compris de notre entretien téléphonique qu'on s'est vu avant, j'ai compris ça. » Et là, tu dis « Est-ce que c'est bien ça ?»« Oui, exactement, vous avez compris mon problème, c'est exactement ça. » Ben voilà, et maintenant on continue, et on part à la solution à ce problème-là.
Ouais, ben, c'est exactement ça, ouais.
Alors, tu avais peut-être une dernière étape
hein? Non, ben, on a fini aux 5 étapes, hein. Bon, alors, ouais, j'étais là-dedans. Quoi.
Justement, un petit truc, astuce ou un exemple que tu pourrais donner justement aux gens qui veulent commencer, des consultants, des coachs, etc., qui veulent commencer leur marketing de soi, leur personal branding, par quoi ils commencent en fait?
Moi, j'ai envie de dire déjà par quoi ils ne devraient pas commencer, c'est-à-dire à vouloir copier les autres. Ça peut être un bon conseil comme un faux conseil parce que c'est toujours… comment dire, on copie toujours un petit peu ce que fait l'autre ou on s'inspire. Du moins, il faut s'inspirer. Quoi.
Comme disait Picasso, les mauvais artistes volent. Les mauvais artistes copient et les grands artistes volent.
Ouais.
Mais Picasso, d'ailleurs, beaucoup volé et s'est inspiré, a fait des choses très.
Mais tu as utilisé le mot s'inspirer. Ouais. Moi, je me suis inspiré de. Je me suis inspiré à la fois de coach québécois, mais aussi d'un pote qui est youtubeur, mais qui n'a rien à voir. Hein, mais, qui mettait énormément son image sur le devant et ça marchait bien hein. Mais voilà, je pense que c'est super important déjà de se différencier, de voir, de faire une étude en quelque sorte de tout ce que font les autres et qu'est-ce que vous souhaiteriez proposer et mettre en avant qui fait partie de vous, qui vous définit mais qui vous permettrait de vous différencier. Et moi, ce qui me permet de me différencier, moi, j'ai toujours été un petit peu rebelle ou à l'encontre de ce que font tout le monde. Moi. J'ai toujours un petit côté un peu dissident, quoi. C'est-à-dire, je vais toujours faire l'inverse de ce que font les autres. Mais c'est ça aussi qui me permet de me différencier et puis d'impacter les gens et qui me garde en mémoire aussi.
Alors, beaucoup de gens te connaissent par les vidéos. Est-ce que c'est ce que tu recommanderais? Parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Est-ce que c'est le blogging, sur les réseaux sociaux?
Encore une fois, tu vois, moi, la vidéo, je l'ai fait parce que ça me branche et parce que c'est ce que j'aurais voulu avoir. Moi, je suis né dans une télé, de toute manière. J'ai passé mon temps à regarder les films, les dessins animés, tout, même les pubs, les génériques de pubs des années 80, je les connais par cœur. Hein. Mais voilà, la vidéo, moi, ça a toujours été un support qui me parlait. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de podcast. J'aurais pu aussi faire du podcast si j'avais aimé la radio quand j'étais gamin. Moi, je regardais tout le temps la télé, donc je me sentais à l'aise pour monter des vidéos. Je prenais plaisir à monter des vidéos, même à les imaginer. Quand j'étais gosse, je m'imaginais quand j'avais pas les chaînes musicales, mais quand j'entendais une musique, ben, je m'imaginais le clip.
Ouais.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le clip, le clip, la mini web série tous les deux aussi. Ouais. Je m'imaginais à chaque fois une représentation, donc c'est là où on se sent à l'aise, là où on prend du plaisir. Après,
pouvoir selon son potentiel. Donc, ça peut être l'écrit, ouais. Ça peut être l'oral, ça peut être
complètement.
La vidéo selon ses capacités.
Ouais, parce que toi, tu t'es mis au podcast, pourquoi?
En fait, alors c'est un peu différent, c'est parce que moi, j'aime bien, je suis très bavard, donc j'aime bien parler, ça ne dure longtemps. Et puis c'est aussi pour passer en français multicanal, parce que j'étais beaucoup écrit, mais le trafic de Google baisse. Et donc c'est un moyen d'aller choper en fait de nouveaux canaux, comme la vidéo, comme le podcast, comme LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. Aller dans les carrefours d'audience et surtout pas trop en négliger. Quoi. Alors, si on veut en savoir plus pour toi, on va sur toi et sur justement le personal branding, sur la reconversion, on va sur quel site web?
Sur osebriller.com.
Alors, osebriller avec E-Z.
O-S-E-Z, ouais. Voilà. Ouais. Il y en a plein qui me posent la question.
Jordan.
Merci Frédéric.
Ciao, ciao.